Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'écouter la radio, les titres de l'actualité avec Maureen Wanzi-Wilaï et Larissa Ngono.
Cameroon's parliament meets tomorrow in its third ordinary session for the 2024 legislative year, with the high point being the examination and adoption of the 2025 finance bill, prioritizing efficient and effective national development policies.
Parlement, les voyants sont au vert pour la troisième session ordinaire de l'année législative en cours. Sénateurs et députés regagnent les hémicycles demain pour l'examen et l'adoption du projet de loi de finances du prochain exercice.
And government intensifies actions to guard against natural disasters after the double landslide in Sancho, where government officials are currently studying possibilities of constructing a secondary road to ease movement while rescue operations continue. Focus of the day will examine the laws regulating house construction in Cameroon.
Et puis sport football, Namibie Cameroun, ce sera sans Carlos Baleba, Brian Bemo et Franck Zombo Anguissa. Déjà qualifié d'office à la CAN Maroc 2020. Les Lions indomptables partent à Johannesburg dans les prochaines heures avec les faveurs des pronostics. Le ministre des Sports a présidé ce lundi une réunion préparatoire en vue des rencontres du 13 et du 19 novembre à l'horizon. Vous entendrez Narcisse Moelle-Ekambi en page des sports vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Lundi 11-11-2024, c'est un réel plaisir de vous savoir à l'écoute du 17-18 sur le poste national. Le directeur des rédactions radio est avec nous pour l'ouverture de cette session d'information. Valérie Dikosumaru, bon après-midi.
Bon après-midi, Larissa.
Nous sommes également avec le directeur adjoint, George Colomb. Good afternoon, George.
Good afternoon, Larissa.
Valérie, vous avez des textes du président de la République.
Décret numéro 2024/542 du 11 novembre 2024 portant nomination du coordonnateur national adjoint du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Le président de la République décrète, article 1er, monsieur Djozon Aliénou Guy Alain est à compter de la date de signature du présent décret, nommé coordonnateur national adjoint du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 11 novembre 2024, signé le président de la République, Paul Biya.
Decree number 2024/542 of the 11th of November 2024 to appoint the Deputy National Coordinator of the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Committee. The President of the Republic hereby decrees as follows. Article 1. Mr. Nzozong Aliénou Guy Alain is with effect from the date of signature of this decree appointed Deputy National Coordinator of the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Committee. Article 2. The appointee shall be entitled to the various benefits provided for by the regulations in force. Article 3. This decree shall be registered, published according to the procedure of urgency and inserted in the Official Gazette in English and French. Yaoundé, the 11th of November 2024. Signed, Paul Biya, President of the Republic.
Décret numéro 2024/543 du 11 novembre 2024 portant nomination d'un inspecteur général au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable. Le président de la République décrète, article 1er, Madame Elundu, née Beyala Joséphine Thérèse Babette, professeure des lycées d'enseignement secondaire général, précédemment conseiller technique numéro 1 au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable, est, à compter de la date de signature du présent décret, nommée inspecteur général, en remplacement de M. Ndongo Barthélémy. Article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 11 novembre 2024, signé le président de la République, Paul Biya.
Decree number 2024/543 of the 11th of November 2024 to appoint an Inspector General in the Ministry of Environment, Protection of Nature and Sustainable Development. The President of the Republic hereby decrees as follows. Article 1. Mrs. Elundu Ne Beyala Josephine Therese Babette, high school teacher, previously Technical Advisor number 1 in the Ministry of Environment, Protection of Nature and Sustainable Development, is with effect from the date of signature of this decree appointed Inspector General in replacement of Mr. Ndongo Barthélémy. Article 2. The appointee shall be entitled to the various benefits provided for by the regulations in force. Article 3. This decree shall be registered, published according to the procedure of urgency, and inserted in the official gazette in English and French. Yaoundé, the 11th of November 2024. Signed, Paul Biya, President of the Republic.
Arrêté numéro 967, CAB / PR du 11 novembre 2024, portant nomination de certains responsables dans les services internes du secrétariat général de la présidence de la République. Le président de la République arrête. Article 1er. Sont à compter de la date de signature du présent arrêté, nommé au poste ci-après dans les services internes du secrétariat général de la présidence de la République. Direction des affaires générales. Service du budget. Chef de service, Monsieur Mang Martin-Charles Roger. Cadre contractuel d'administration, précédemment chef du service de la documentation et de la bibliothèque, en remplacement de Monsieur Miené Mindoumou Arnaud Robert, appelé à d'autres fonctions. Service du matériel. Chef de service, Monsieur Ndida Mala Madé, cadre contractuel d'administration, précédemment en service au secrétariat général de la présidence de la République, poste vacant. Service de la documentation et de la bibliothèque, chef de service, Monsieur Monty Jacques Albert, cadre contractuel d'administration, documentaliste, précédemment chef du service des archives et du classement, en remplacement de Monsieur Mang Martin Charles Roger, muté. Direction du courrier présidentiel, service des archives et du classement, chef de service, Madame Abin Gabrielle Virginia, cadre contractuel d'administration, précédemment chef du service des déplacements, en remplacement de Monsieur Monty Jacques Albert, muté. Service des déplacements, chef de service, Madame Mwanjo Ne Ngo Sole Rose, contractuel d'administration, précédemment en service au secrétariat général de la présidence de la République, en remplacement de Madame Abin Gabrielle Virginia, muté. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 11 novembre 2024, signé le président de la République, Paul Biya.
Order number 0967/PR of the 11th of November 2024 to appoint officials in the internal services of the Secretariat General of the Presidency of the Republic. The President of the Republic hereby orders as follows. Article 1. The undermentioned persons are with effect from the date of signature of this order appointed to the following positions in the internal services of the Secretariat General of the Presidency of the Republic. Department of General Affairs, Budget Service, Service Head, Mr. Mang Martin Charles Roger, Contract Officer, previously head of the Documentation and Library Service, in replacement of Mr. Miene Mindumu Anon Robert, who has been transferred to other duties. Equipment Service, Service Head, Mr. Jida Malamade, Contract Officer, previously in service at the Secretariat General of the Presidency of the Republic, vacancy. Documentation and Library Service, Service Head, Mr. Monty Jacques Albert, Contract Officer, Documentalist, previously head of the Records and Filing Service, in replacement of Mr. Mang Martin Charles Roger, who has been transferred. Department of Presidential Mail, Records and Filing Service, Service Head, Ms. Abeng Gabriel Virginia, Contract Officer, previously head of the Travel Service, in replacement of Mr. Monty Jacques Albert, who has been transferred. Travel Service, Service Head, Mrs. Wanjo Ne Ngo Sole Rose, Contract Officer, previously in service at the Secretariat General of the Presidency of the Republic, in replacement of Ms. Abeng Gabriel Virginia, who has been transferred. Article 2, the appointees shall be entitled to the various benefits provided for by the regulations in force. Article 3, this order shall be registered, published according to the procedure of urgency, and inserted in the Official Gazette in English and French. Yaoundé, the 11th of November, 2024. Signed, Paul Biya, President of the Republic.
Thank you very much, George Kelong and Valérie Dikosumaru.
Le 17-18, c'est 60 minutes de nouvelles et d'actu prospective sur les grands moments de la nation. Le focus du jour. Le sport, l'actu international. Le grand reportage, l'interview et l'invité du 17-18 pour vous informer en direct du poste national de la CRTV.
Les questions de population et de développement en discussion ce lundi sur fond de satisfaction du directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population, région Afrique de l'Ouest et du Centre, lequel se réjouit de la qualité de la coopération avec le Cameroun. Senen Runtu a été reçu en audience en fin de matinée par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté. Prétexte, le 30e anniversaire de l'agence onusienne. Le compte rendu d'audience de Laurentine Bocono.
En ce début de semaine, à l'immeuble Étoile, les petits papiers du premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diane Gauthier, portent sur les notions de population et de développement. En visite de travail au Cameroun, le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre est venu écouter le gouvernement camerounais pour mieux définir les axes de coopération entre notre pays et l'agence onusienne en charge des questions de reproduction humaine. Senen Unton était porteur d'un message d'optimisme partagé sur l'état de la coopération entre le Cameroun et le FNUAP, l'institution onusienne dont il a la charge au niveau régional.
Je suis venu exprimer la gratitude du Fonds des Nations Unies pour la population au gouvernement du Cameroun. Cette année, c'est une année particulière, c'est les 30 ans de la Conférence internationale pour la population et le développement. Durant toutes les dates commémoratives pour marquer cet événement, le Cameroun a été à nos côtés. Depuis la réunion ministérielle, la réunion des experts, la réunion globale et même au sommet du futur avec le président Philemon Niang de l'Assemblée générale pour positionner les questions qui nous tiennent à cœur, mais qui tiennent à cœur aussi au gouvernement du Cameroun, à savoir l'investissement dans la jeunesse et le capital humain des jeunes et des femmes. Deuxièmement, c'est venir écouter le gouvernement, écouter nos bénéficiaires pour savoir comment mieux servir le pays.
Autre préoccupation et pas des moindres, selon le fonctionnaire onusien, le plaidoyer en faveur de la femme.
Nous avons fait des plaidoyers en ce qui concerne la contribution du gouvernement, en ce qui concerne le recensement général de la population et de l'habitat et d'autres sujets très importants qui concernent notre agence qui s'occupe essentiellement de s'assurer que les femmes ne meurent pas en donnant la vie, qu'il n'y ait pas de violence faite aux femmes et que les grossesses restent un choix et non un hasard. Ici au Cameroun, il y a de l'expertise.
Enfin, l'hôte du Premier ministre a salué l'initiative du gouvernement camerounais d'organiser un recensement général de la population qui sera couplé au recensement de l'agriculture et de l'élevage. Immeuble Étoile, Laurentine Bocono, CRTV.
The regional director of the United Nations Population Fund for Western Central Africa, Dr. Senen Hunten, has acknowledged the support provided by the government of Cameroon during the commemoration of the 30th anniversary of the International Conference of Population and Development. He conveyed the gratitude of the UNFPA during an audience granted to him by Prime Minister Head of Government Joseph John Goute today in Yaoundé. Both men also discussed ways of boosting cooperation in order to make the UNFPA more efficient in Cameroon. Star Building correspondent Christian Chiatam.
2024 has been an important year for the United Nations Population Fund, the UNFPA. The organization commemorated the 30th anniversary of the Cairo International Conference on Population and Development, which produced the working documents of the organization, and Cameroon played an active role in the events. That is why the UNFPA Regional Director for Western Central Africa, Senen Hunten, was full of thanks for the government of Cameroon during his visit to the Star Building.
Cameroon has been beside us throughout the technical meeting, the ministerial consultation, the global conference on population and development in New York, but also throughout the summit of the future with His Excellency, the President of the General Assembly, Ambassador Philemon Yang, who has helped us position the key issue that we work on, but also which are also important of the government of Cameroon, which are the investment in youth, the investment in women and girls.
Joseph Dion Goute and the UNFPA official also examined ways of enhancing the action of the organization in Cameroon. Senen Hunten, UNFPA Regional Director for Western Central Africa.
I came also to listen, as a regional director, to listen to the government, to the different partners, the donor community, our beneficiary, so that we can know how best to serve Cameroon through our country program. I also made some advocacy, contribution of Cameroon to the core funding of the organization and to the UN at large, but also on the census, which, as you know, is a critical, important exercise to plan development.
Prime Minister Joseph Dion Goute reassured the UNFPA official that the protection of the rights of women and youths remains a major preoccupation to the government of Cameroon. Christian Chiatam, CRTV, The Star Building.
Dans l'actualité à venir, la troisième session ordinaire de l'année législative 2024. Nous vous le disions en titre, le Palais des Congrès, cadre des travaux, affiche fière allure en cette veille de reprise. Sénateurs et députés regagnent progressivement Yaoundé, la capitale, pour prendre une part active aux travaux. Les séances plénières d'ouverture sont prévues demain mardi à 11h et à l'Assemblée nationale et dès 16h au Sénat. Au-delà de l'examen du projet de loi de finances attendu, les parlementaires vont aussi s'intéresser à d'autres aspects de la vie de la nation. En voici un petit aperçu dans ce reportage de Julienne Paul Ngono.
Encore appelée session budgétaire, la session ordinaire du mois de novembre au Parlement sera essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de loi de finances pour l'exercice 2025. À l'observation, les députés et les sénateurs ont participé au débat d'orientation budgétaire pendant la session du mois de juin dernier. Ils sont donc mieux outillés pour comprendre et débattre de certains aspects concernant la préparation du budget de l'État, notamment le contexte, les contraintes, les perspectives et les exigences liées à l'élaboration du texte de loi régissant la loi des finances attendue. Selon le ministre des Finances, Lupol Motaze, la politique budgétaire du gouvernement en 2025 restera adossée sur la consolidation de la situation des finances publiques en cohérence avec le programme économique et financier du FMI et les objectifs prioritaires de la stratégie nationale de développement SND 30. Au niveau de la fiscalité interne, le gouvernement prévoit l'adoption et la mise en œuvre de la loi portant fiscalité locale. Le texte est très attendu par les conseillers locaux puisqu'il leur permettra de disposer de ressources propres pour l'implémentation des plans régionaux de développement. Outre sa mission régalienne, on a constaté que depuis quelques sessions, le Parlement a décidé de prendre à bras le corps de nombreux sujets d'actualité, notamment l'éboulement survenu à la falaise de Tchang dans la région de l'Ouest et qui a fait 11 morts au dernier bilan. La lutte contre la vie chère, les problèmes d'insécurité à quelques jours des célébrations des fêtes de fin d'année figurent dans l'agenda des parlementaires.
Et Florence Awassom, secrétaire générale adjointe du Sénat, accompagnée de directeurs et d'autres responsables du Sénat, était au Palais des Congrès cette mi-journée à l'effet de visiter les principaux espaces dédiés à la tenue de la session parlementaire de novembre, notamment l'hémicycle, la salle des commissions, les bureaux de traduction, entre autres. Je vous propose de l'écouter au terme de cette inspection.
La session budgétaire est très cruciale. Mon équipe et moi travaillons sans relâche depuis la convocation officielle de cette session. Nous prenons donc les dispositions nécessaires pour que tout ça passe bien. À un mot, nous avons une équipe très compétente, déterminée à accompagner le président du Sénat pendant cette session budgétaire. On est chez vous.
Des propos recueillis par Julienne Paul Godin.
In keeping with constitutional provisions, Parliament meets tomorrow in its third ordinary session for the 2024 legislative year. During this session, essentially voted for the voting and adoption of the 2025 Finance Bill of the Republic of Cameroon, lawmakers will discuss issues of national life and put members of government to task in a bid to shape efficient and effective government policies. Parliamentary Affairs correspondent Doris Bateta-Toikwe now examines the stakes of the November session.
The country's lawmakers have got business to handle for the next 30 days. Cameroon's 2025 Finance Bill will be examined and adopted during the November session. Prior to the preparation and tabling of this bill in the next couple of weeks, parliamentarians during the June session had an avant-goût of the situation and outlook for both the economy and public finances, as well as broad budgetary policy guidelines during the budgetary orientation debate. It filtered out that government's budgetary policy will remain focused on implementing the National Development Strategy 2020-2030, with priority on infrastructure, agriculture, industry, and social sectors, plus governance. Cabinet ministers will be expected to file past the Finance and the Budget Committees of both Houses of Parliament to defend their various budgetary chunks before a general examination and adoption in plenary of the overall budget. During the November session, government's economic, financial, social, and cultural program for next year will be presented by the Prime Minister, Head of Government. Meanwhile, senators and members of the National Assembly are also expected to play their constitutional role of policing the government's bench on issues of national concern. The recent deadly natural catastrophes, including the Chancleaf landslide, floods in the far north, and high cost of living, to name but these, feature on the list of problems to be brought to the table.
Le comité de réflexion sur le dimensionnement des routes veut optimiser le coût des constructions routières et accroître ainsi le linéaire des routes bitumées avec des moyens financiers disponibles. Réunis ce lundi autour du ministre des Travaux publics, les différents membres de cette instance ont échangé sur les mécanismes à adopter afin d'atteindre cet objectif en utilisant les matériaux locaux que sont les scories volcaniques ou encore la pouzzolane. Sur la pertinence de la mise sur pied d'un guide de dimensionnement des routes au Cameroun, écoutons l'un des ingénieurs experts du comité de réflexion, Francis Happy, est au micro de Séraphin Dicam.
Dimensionner une route, en réalité, c'est calculer les différentes épaisseurs que contient la route pour supporter le trafic. C'est un peu comme un millefeuille ou un gâteau avec plusieurs étages qui sont là pour supporter le poids des différents véhicules et notamment des poids lourds. On dimensionne des routes pour supporter le trafic des poids lourds. Alors, la réunion est très importante dans la mesure où quand on dimensionne, on sélectionne des matériaux. Et l'idée du ministre est de voir dans quelle mesure nous pouvons non seulement utiliser le maximum de matériaux locaux, d'une part, et d'autre part, de matériaux qui sont issus de la région où traverse la route. Ça permettrait de réduire les distances de transport, donc de minimiser les coûts de travaux.
Cap à présent sur la région du littoral et précisément à Douala, où l'ingénierie artistique et culturelle est présentée comme une plus-value pour la création d'entreprises en milieu universitaire. C'est en tout cas le fil conducteur de l'édition 2024 du Festival universitaire des arts et de la culture, en abrégé UNIFAC, sur les rails depuis depuis ce matin. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, qui a lancé l'événement, a profité de cette tribune artistique et culturelle pour inviter les étudiants à redoubler d'ingéniosité. Écoutons le professeur Jacques Famundongo.
L'art n'est pas seulement un objet de contemplation et d'épanouissement spirituel. L'art n'est pas seulement une finalité sans fin. L'art n'est pas seulement le creuset d'une jouissance esthétique, plastique et platonique. L'art et la culture constituent aussi, par-delà le bien, le beau et le vrai, le support d'une industrie qui crée de la richesse et des emplois, qui maximise le produit intérieur brut et optimise la croissance économique et sociale de notre cher et beau pays, le Cameroun. L'art et la culture sont devenus aujourd'hui des catalyseurs de la richesse des nations. La richesse des nations repose aussi sur l'art et la culture.
Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, dans un extrait de discours sélectionné par Mélanie Bilot de CIRTV Littoral. Sur une tonalité moins gaie, alors que plane le spectre de nouvelles catastrophes naturelles dues au changement climatique, l'inquiétude demeure quant au Mont Ngaoundéré envahi par des maisons construites de part et d'autre de la montagne. Les populations cohabitent avec les rochers au mépris des risques liés aux catastrophes naturelles qui peuvent survenir à tout moment selon les experts et autres climatologues. Ibrahim Mohamed Abassi.
Sur les flancs du Mont Ngaoundéré, des maisons d'habitation telles des champignons sont érigées. Les rochers ont fait place à une grande cité où vivent paisiblement de nombreuses familles.
Tous les jours, nous vivons dans la peur. Mais on va faire comment? Nous avons pris le risque de rester ici parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où vraiment rester.
Les risques sont grands. Comme nous n'avons pas où aller, nous sommes obligés de vivre au pied du Mont Ngaoundéré.
La situation est suffisamment grave et commande de fortes actions. Esaïe Tia, environnementaliste.
Il y en a qui creusent, qui cherchent les cailloux, il y en a qui construisent. Ils sont ignorants des dégâts qu'ils sont en train de causer sur la nature. Mais la pluviométrie, pour un bloc de pierre, parfois c'est soutenu par un petit caillou. Il suffit qu'on déplace le soutien de ce bloc, allez, il descend. Et quand vous voyez le Mont Ngaoundéré, son altitude, c'est un bloc de gringos de là, toutes les maisons qui sont en bas seront rasées.
Une opération de démolition de ces maisons s'impose afin d'éviter le pire. Alain Poteau, délégué régional de l'habitat et du développement urbain pour l'Adamawa.
Pour ceux qui sont déjà installés, il faut trouver un moyen avec la collectivité, les sites de recasement, et libérer l'espace du monde. Alors, mais une fois que le monde est libéré, il faudra le sécuriser.
Il est question de protéger le Mont Ngaoundéré et de prévenir les catastrophes naturelles dans cette zone à risque.
Et voilà la bonne transition qui nous amène à la falaise de Tchamourine où l'on se déploie pour la construction d'une voie de contournement après le récent éboulement.
Yes, Larissa, officials of the Ministry of Public Works are currently in the field to carry out feasibility studies for the construction of a secondary road on the Chang Cliff. The officials are at the moment studying the possibility of a deviation that avoids the steep and mountainous nature of the escarpment. Details with Eric Langmiawofo.
The technicians of the Ministry of Public Works have outlined that the deviation will be carried out on a road that was constructed by the Germans. The mayor of Chang, Jackie Kamler, who has been working closely with the public work officials, affirms that the new road will avoid the long, steep slopes with sharp bends of the cliff.
They have started in Carrefour Plantain. They have taken the route built by the German. On that route, we don't have mountain. And it's something like 24 kilometers when you leave Ntenge, which is in Chang. And the second way we are trying to explore is the one when you leave Sanchu, you go to Fokwe and you enter in Chang by Foreke Chang and arrive where you don't have the mountain. But the problem is that in terms of reference, the minister said that he don't want to see mountain again. And the second thing is to be sure that the people will not negatively impact by the job.
The construction of the new road will also take into consideration environmental impact assessment with studies aimed at avoiding any negative consequences on the population. In the meantime, traffic has been redirected to the Bafangekem stretch. The stretch is currently said to be experiencing maintenance works. Eric Langmiawofo, CRTV News, Njang.
The resettlement of victims of natural disasters, including landslides and floods in Cameroon, remains challenging for the government, who spares no efforts to in raising awareness about the illegal occupation of risk zones in the country. Lack of infrastructure and the cost of caring for these vulnerable persons are among other tough emergency solutions which often have to be tackled. Details with Vanessa Hunang-Snamong. The resettlement will be having Vanessa Hunang-Snamong in the course of this newscast. Meanwhile, the Minister of Agriculture and Rural Development has lauded the initiatives taken by rural women in the littoral region in the production of transformation of cassava. Gabrielle Mbairobe was speaking today in Douala at the launch of the maiden edition of the International Cassava Festival, an initiative of the Cameroon Women Action and Development, FADEC. The fair will run till November 16 and is taking place under the theme Fighting Food Insecurity by Promoting Cassava Cultivation and Developing Its Economic Potential. Roberto Jingi Abdulaziz.
Cassava, considered as an important foodstuff cultivated in all the 10 regions of the country, with hundreds of products made out of it, has some challenges that need to be looked into for the sector to be improved in terms of productivity and mechanization. The Cameroon Women Action and Development, known by its French acronym as FADEC, through its president, Evelyn Doumer-Banlock, has come up with this International All Cassava Festival to open doors for its transformation into the pharmaceutical, brewery, cosmetic and energy sectors. This platform will also help to showcase the economic, cultural and gastronomy potential of the produce. The Minister of Agriculture and Rural Development, Gabrielle Mbairobe, reiterated the need of improving the sector as the population lives on agriculture, and also in a country where import substitution is promoted, local transformation of the produce is laudable. He used the occasion to visit the stands of some rural women from the four divisions of the littoral region. Rabiatu Jingi Abdulaziz, CRTV News, Douala.
At the end of the ceremony, the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe, elaborated on the challenges faced by cassava production sector and what needs to be done to improve the sector. He was speaking to our reporter Rabiatu Jingi Abdulaziz from Littoral.
Cassava is produced in the 10th region, and we have some challenges in the production of cassava. The first, the mechanization of the production. The second challenge is the reduction of the post-harvest losses, because we have a lack of adequate storage facilities, a lack of process unit, and we think that cassava is a very important subsector in our agriculture to achieve the SDG 1 and 2 that aim at eradicate poverty.
That was the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe, talking to our reporter, Rabiatu Jingi Abdulaziz. The 10th edition of the University Festival of Arts and Culture has been officially launched in Douala on the theme Artistic and Cultural Ingenuity, an added value to the creation of enterprises in the university milieu. The event, which has brought together 17 universities, will last for 6 days and was launched by the Minister of State, Minister of Higher Education and Chancellor of the Academic Orders, Professor Jacques Famendongo. Madon Kwele.
I therefore declare open the 10th edition of the University Festival of Arts and Culture 2024.
The ball has been set rolling for the 5-day activity to portray Cameroon's art and culture in all its facets. The 10th edition of the University Festival of Arts and Culture has brought together close to 1,500 youths and about 400 supervisors from 17 state and private universities. Each of them have come to Douala with a touch of creativity and originality displayed through their attires and are ready to showcase their know-how for victory.
My name is Dubana Prisa. I'm from the University of Bedwa. We are here to win, and you cannot go back without the trophy.
My name is Kenny Minel. I come from the University of Goya. I will stand for bilingualism and civics and patriotism. I promise to give my best to win.
The Minister of State, Minister of Higher Education and Chancellor of Academic Orders, Professor Jacques Pham Dongo, accompanied by Transport Minister Jean-Ernest Masenangale Bibeye, called on the students to give their best and uphold Cameroon's arts and culture, a catalyst to the country's economic growth. The ceremony was attended by university rectors, school administrative officials, and other guests from the littoral region and beyond. The event shall end on November 16, 2024. Madonkwele Beza, TSC, RTV News, Douala.
Let's now listen to the Minister of State, Minister of Higher Education, and Chancellor of the Academic Orders, Professor Jacques Pham Dongo, in his keynote address to the university community at the 10th edition of the University Festival of Arts and Culture.
Let us therefore celebrate with splendor and solemnity these cultural riches that you are about to present to us. I therefore hope that through your artistic ingenuity, your creations and your performances, our national introduction will be magnified. Dear Cubs, as we prepare to celebrate university art and culture on the banks of the Wouri River, to make this 10th edition of the University Festival of Arts and Culture, the most beautiful university artistic jamboree ever organized. May friendship, talent, ethics, equity, and fair play be the only guide through your efforts throughout this festival.
The Minister of State, Minister of Higher Education, and Chancellor of Academic Orders, Professor Jacques Pham Dongo. You're listening to the 5 to 6 p.m. The governor of the Far North has encouraged public contracts holders in the region to make good use of the online e-procurement system put at their disposal by the government through the Ministry of Public Contracts. Governor Mijiyawa Bakari was speaking in Marwa while launching a three-day workshop organized by the Ministry of Public Contracts to equip public contract stakeholders with knowledge on the use of the Cameroon online e-procurement system known by its French appellation as COLEPS. Sylvester Atemken reports from Marwa.
In line with the mission of the Ministry of Public Contracts to promote productivity, efficiency and to eliminate anti-resort actions in the award of contracts, the workshop in Marwa edified public contract system stakeholders in the Far North region on the online award of contracts through the Cameroon online e-procurement platform. At the workshop, the project's head of mission from the Ministry of Public Contracts, Olua Yvette, described the platform as part of the ministry's broader efforts for the widespread use of the system in bidding and awarding contracts. Meanwhile, Far North Governor, who launched the workshop, underscored the importance of the platform in modernizing the administration and promoting development through resort-oriented innovations while challenging the stakeholders to fully embrace its usage. Mijiyawa Bakari.
The government decided to modernize this system, to avoid corruption in this system, to address other projects, to call them to follow what will be teach and to implement in their different areas.
For 3 days, the stakeholders will be schooled on the overall function of the online system to economize resources and time. Marwa, Sylvester Temkin, CRTV.
17h passé de 38 minutes, je vous donne lecture de ce télégramme officiel du président de la République adressé à son Excellence João Manuel Lourenço, président de la République d'Angola à Luanda. Le chef de l'État écrit « Monsieur le Président et chers frères, il m'est très agréable au moment où la République d'Angola célèbre sa fête nationale, le 11 novembre, de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes voeux de progrès et de prospérité pour le peuple angolais. Je saisis cette circonstance solennelle pour vous réitérer ma disponibilité et celle de mon gouvernement à œuvrer à la consolidation des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Cameroun et l'Angola. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération, signée Paul Biya. En perspective, cette visite de travail qu'effectueront à Marwa et Garoua du 11 au 15 novembre prochain, la ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Célestine Kétia-Cortès, et son Excellence Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun. Au programme ce 11 novembre, la visite des projets du programme C2D urbain capitale régionale et du projet de développement des villes inclusives et résilientes en cours dans le chef-lieu de la région de l'extrême nord, financé par l'Agence française de développement et la Banque mondiale. Et prévu demain mardi, la cérémonie de lancement des travaux de voirie du programme CDD urbain capitale régionale et des travaux de proximité dans la ville de Maroua. Et par la suite, l'inauguration du boulevard Kakatari, entre autres articulations.
Get the latest news in Cameroon, Africa and the world. Only on the 5 to 6 p.m.
Gestion des catastrophes naturelles, la sempiternelle équation de la prévention cherche encore solution alors que le changement climatique et autres catastrophes naturelles n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. Si les sinistres demeurent parfois inévitables, les conséquences devraient être anticipées, tant par les pouvoirs publics appelés à élaborer des stratégies innovantes et efficaces que par les populations appelées à éviter les zones à risque. L'appel salutaire demeure malheureusement très souvent lettre morte, car l'État préfère convaincre plutôt que contraindre. La tolérance administrative en question est en débat dans le focus du jour ce lundi avec Sam Lingom du service environnement.
As Larissa rightly said, recent events, including floods and landslides in various parts of the country, require the development of civic behaviors to limit disasters and the loss of human lives. But many Cameroonians either ignore or do not want to comply with existing laws, a phenomenon sometimes attributed to government tolerance. Good evening, Sam Lingom, and thanks for joining us.
Good evening, Maureen. Hi, Larissa.
Cameroon is witnessing a rapid demographic growth with poor urbanization as a direct consequence. What are some of the laws regulating the management of catastrophes and town planning in Cameroon?
The Cameroon government has taken several measures to reduce the impact of natural disasters by incorporating disaster risk management and climate change adaptation into its development planning. There are national and international texts governing the framework of civil protection and disaster management, such as the December 6, 1986 Law on the General Reorganization of Civil Protection, the March 9, 1998 Law on the Reorganization of Emergency and the Relief Plans in Cases of Disasters or Major Risk, and the 2004 Law regulating the issuance of building permit in Cameroon. Concerning the 2004 law on town planning, it outlines 9 complex conditions necessary to obtain a construction permit, including land ownership and a geotechnical assessment. In the absence of a valid permit, proprietors are liable to a penalty amount of 30% of the building's total cost.
But why are Cameroonians not respecting these laws, Sam? What are the consequences?
According to experts in town planning, the process for obtaining a building permit in Cameroon is lengthy and convoluted, involving various parties. This long procedure, coupled with the precarious financial situation of most Cameroonians, are discouraging even for those who may wish to apply. These experts blame the lack of a digitization streamlined process alongside deep-rooted corruption, which impede the process of obtaining a building permit in the country. Municipal councils seem to be more reactive than proactive, poorly playing the role of sensitizing the population on the need to avoid building in risk-prone areas. The consequences of this non-respect of building norms include floods, frequent fire accidents, shanty neighborhoods, and poor hygiene and sanitation measures.
Tell us, what is the government doing to stop this situation?
The government has developed many action plans for disaster risk reduction, environmental protection, and adaptation mechanisms. In that line, in 2023, the Prime Minister and Head of Government, Joseph John Gute, instructed governors and local authorities to ensure the general application of laws governing constructions and the stricter control of buildings under construction in urban areas by facilitating the procedures. After the Mbankolo landslide, which killed over 30 people last year, the Minister of Housing and Urban Development, Celestine Kechakutez, promised to limit anarchic constructions causing these fatalities by making land documentation mandatory. Maureen, most experts say municipal authorities must effectively perform their watchdog role in their different councils by being more proactive and by limiting corruption in order to prevent catastrophes resulting from buildings that do not respect construction norms or constructed in risk-prone areas.
Sam Lingam, thanks very much for these insights.
My pleasure, Maureen. Have a nice evening.
Le Cameroun n'est pas prêt de sortir de l'ornière des catastrophes naturelles de sitôt au regard de la conjugaison d'un ensemble de facteurs. Il s'agit des comportements à risque, des constructions aux abords des flancs de collines ou encore de marécages et tout simplement le non-respect des règles y afférentes. À ces actions néfastes de l'homme viennent s'ajouter l'instabilité du climat et la forte pluviométrie. L'invité du 17-18 est un géomaticien spécialiste en gestion des risques et catastrophes. Il donne quelques pistes de solutions pour améliorer l'aspect prévention. Nous l'écouterons dans quelques instants. Le temps pour nous de revenir sur le grand reportage de cette édition. Et ce lundi, nous allons sur les traces de la Marine nationale en France. Le bras séculier de l'État camerounais en matière de protection maritime était présent au Salon mondial naval de défense organisé à Paris du 4 au 7 novembre dernier. La délégation conduite par le contre-amiral Jean Mondois, chef d'état-major de la Marine, a vu et pris connaissance des dernières innovations mondiales de sécurisation maritime nécessaires dans le golfe de Guinée. En ligne de Paris, notre reporter Clarisse Ndjonga.
Sous-marin nucléaire, porte-hélicoptère, brise-glace, frégate, porte-avions, c'est à une véritable démonstration de force que l'on assiste à Euronaval, le premier salon mondial du naval de défense où l'élite de l'industrie marine vient s'enquérir des dernières avancées technologiques. Philippe Missoff est le délégué général du GICAN, le groupement des industries de construction et activités navales, initiateur du projet.
L'objectif est de créer un lieu de rencontre entre les délégations, qui sont les clients en général, et les industriels pour qu'ils échangent sur les thématiques qui leur sont chères, donner de la visibilité sur les acquisitions sur les navires de plus de 200 tonnes qui sont construits dans le monde. C'est 82 milliards d'euros de chiffre d'affaires ces deux dernières années pour la construction des navires de plus de 200 tonnes dans le monde. Vous trouverez aussi toutes les technologies qui sont en cours de développement essentielles comme la lutte contre la menace dans les grands fonds marins, la dronisation, l'engagement collaboratif entre les nouveaux missiles et les nouveaux systèmes antimissiles, notamment les systèmes laser.
Le Cameroun est l'un des rares pays africains présents à ce rendez-vous de Paris où les grands industriels du monde ont sorti leur artillerie lourde. D'abord la Chine, premier constructeur mondial avec ses 455 navires, suivi de près par les États-Unis, dont la flotte marine compte 246 navires. L'étude sur la construction navale de défense attribue entre autres au Cameroun 4 navires, pour l'essentiel des patrouilleurs côtiers. Le capitaine de vaisseau Théophile Kouanchou, chef du chantier naval de la marine, est membre de la délégation camerounaise que conduit le contre-amiral Jean Mendois, chef d'état-major de la marine.
Le Cameroun est au cœur du golfe de Guinée, une zone particulièrement riche en ressources minières et halieutiques, une zone qui connaît d'importants trafics maritimes. Également une zone où les grandes puissances se vivent une compétition féroce. Il y a donc un réel enjeu lié à cette zone. Ces enjeux suscitent la convoitise qui entraîne des menaces tendant à profiter de la manne que cette zone aurait à offrir. Pour le cas du Cameroun, il s'agit de la piraterie et du vol à main armée, de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, du trafic de toutes sortes, carburant, drogue, de l'immigration clandestine, de la pollution maritime.
Le salon Euronaval a tenu toutes ses promesses. 480 exposants, 26 000 visiteurs professionnels, 150 délégations venues de 80 pays et plus de 1 500 partenariats noués. Rendez-vous en 2026 pour la 30e édition de l'Euronaval. Paris, Clarisse Ndjanga, CRTV.
De Paris, retour au Cameroun pour parler des comportements à risque, tels les constructions aux abords des flancs de collines de marécages ou encore le non-respect des règles afférentes aux questions de construction. L'invité du 17-18 est un géomaticien spécialiste en gestion des risques et catastrophes naturelles. Il émet quelques idées pour améliorer l'aspect prévention des catastrophes naturelles. En ce moment où l'Observatoire national sur les changements climatiques alerte quant à la probabilité d'autres sinistres en perspective. Il répond aux questions de Sylvain Yangman. Il s'agit du docteur Philippe Mbevou.
Bonjour, docteur Philippe Mbevou.
Bonjour.
Le Cameroun est-il devenu un pays de catastrophe?
À cette question, je réponds par l'affirmative, dans la mesure où toutes les régions du Cameroun, presque, sont affectées par les catastrophes naturelles. De la région de l'extrême nord jusqu'au niveau de l'océan, on a risqué des catastrophes. Pour vous rappeler, tout récemment, nous avons eu des inondations catastrophiques dans la région de l'extrême nord, avec pour épicentre la localité de Yagoua, où on a eu pratiquement 11 morts selon les chiffres officiels, 200 personnes impactées, 103 000 hectares de culture détruits, 185 écoles primaires inondées, 13 lycées inondés, 1178 têtes de bétail perdues. C'est une zone à haut risque. Si on descend vers la partie sud, précisément dans la zone de Yaoundé, région du centre, on enregistre des catastrophes naturelles telles les glissements de terrain de Damas, les glissements au niveau de
Bankolo.
Bankolo, exactement, merci. Et les inondations à répétition au niveau de la cour centrale des quartiers Bankolo-Dison. Et dans la région du littoral, nous avons les inondations catastrophiques de Douala. Nous avons en mémoire les inondations du 15 juin 2015, très récemment du 8 août 2020, où les impacts étaient significatifs. Et dans la région du sud, nous avons le département de l'océan qui est victime de l'érosion côtière. Tous les pays au monde qui construisent des ports font face à l'érosion côtière. Voilà, dans l'estuaire du Vory, il y a aussi l'érosion côtière. Et la région de l'ouest, bien sûr, ce sont les hautes terres. Nous avons en mémoire l'équipement terrain de Mwache, vous connaissez sûrement.
Et Sancho, aujourd'hui, la falaise de Tchang.
Dans la falaise de Tchang. En termes de catastrophes d'origine humaine, nous nous rappelons très bien de la catastrophe de Sam Ifoulan et bien d'autres qui sont déjà arrivés au Cameroun ces dernières années.
Alors, des causes naturelles, des causes humaines du fait de l'action de l'homme?
Oui, en même temps, on a les causes naturelles, en même temps, on a les causes humaines. Du point de vue naturel, ces zones qui subissent des glissements de terrain sont généralement des zones d'altitude, et donc prédisposées au phénomène de mouvement de masse, dont les glissements et les éboulements de terrain. Encore, comme facteur naturel, nous avons par-dessus tous les changements climatiques qui se manifestent aujourd'hui à travers des aléas et des catastrophes. Donc, le changement climatique, c'est une problématique mondiale qui touche tous les pays et dont le Cameroun. Mais beaucoup plus, les facteurs humains sont prédominants parce que là où le risque ou l'aléa survient, il y a toujours et presque toujours une part de l'intervention humaine. Pour ce qui est des inondations, vous allez voir, les populations occupent de plus en plus les espaces inondables dans les villes du fait de la recherche de logements.
Les fortes pluies de ces derniers jours pouvaient vraiment nous éviter des drames, éboulements, glissements, inondations?
Bien au contraire, ce sont ces fortes pluies-là qui sont généralement à la source de ces aléas que vous venez de... Avec les prestations actuelles, on doit s'attendre au pire parce que non seulement les éboulements, les glissements de terrain pourront être à répétition, mais aussi les inondations. La pluie est un facteur déclencheur immédiat de ces aléas, que ce soit les inondations ou les glissements de terrain.
Alors, qu'est-ce que vous appelez risque? Qu'est-ce que vous appelez catastrophe?
Le risque, déjà, c'est la probabilité de manifestation d'un élément d'origine naturelle ou anthropique. Et cet élément naturel ou anthropique peut être de type géomorphologique, comme les glissements de terrain, les mouvements de masse dans l'ensemble. Anthropique, ça peut être des risques d'incendie et autres. Donc, le risque se place comme la probabilité d'occurrence d'un élément d'origine naturelle ou anthropique. Or, la catastrophe est beaucoup plus un événement soudain, imprévu et destructeur qui cause des dommages importants à la vie humaine, aux biens, à l'environnement et aux infrastructures, dépassant parfois la capacité de réponse des sociétés ou des services d'urgence dans une localité.
De plus en plus de catastrophes enregistrées, des taux qui vont crescendo, peut-on effectuer un parallèle avec le non-respect des plans directeurs de nos villes?
En quelques mots, je dirais le non-respect des schémas directeurs d'urbanisation est un facteur non négligeable dans nos villes parce que nous connaissons tous les désordres urbains que nous vivons aujourd'hui. Pour ce qui est des régions de l'extrême nord, par exemple, ils ont plus besoin aujourd'hui du développement d'un système d'alerte précoce aux inondations. C'est un dispositif qui détecte et avertit les personnes exposées à un danger potentiel.
Ça alors que dit par exemple des calendriers de l'ONAC?
Les calendriers de l'ONAC sont bien adaptés et bien contextualisés. L'ONAC aujourd'hui c'est un organisme crédible qu'on devrait prendre au sérieux et la précaution revient donc à réduire l'impact du danger.
Docteur Philippe Mbevo, géomaticien, spécialiste en gestion des risques et catastrophes, merci d'avoir répondu aux questions de la CIRTV.
C'est moi qui vous remercie.
Et dans le même ordre d'idées, la question des catastrophes naturelles meuble la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est en Azerbaïdjan, à Bakou. Cette année, les enjeux du sommet sont grands. Le financement du climat, au cœur des débats. Les experts estiment que des milliards de dollars seront nécessaires pour aider les pays vulnérables fortement impactés par les drames climatiques et réduire par là même les émissions de gaz à effet de serre. Une actualité parmi tant d'autres que nous déroule Yolande Nzanga, stagiaire.
En Azerbaïdjan, la capitale Bakou accueille ce 11 novembre la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette année, les enjeux du sommet sont grands. Le financement du climat est au cœur des débats. Les experts estiment que des milliers de dollars seront nécessaires pour aider les pays vulnérables fortement impactés par les drames climatiques, réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux variations climatiques déjà en cours. Un échec dans les négociations de Bakou compromettrait gravement les objectifs de réduction des émissions fixés pour 2025, mettant en péril les espoirs de contenir le changement climatique. Au Tchad, au moins 17 soldats ont été tués dans une nouvelle attaque de Boko Haram ce week-end dans la région du lac Tchad. L'assaut qui s'est déroulé contre un poste militaire a également fait 96 morts parmi les assaillants, a déclaré le porte-parole de l'armée, le général Isaac Hachek. Les offensives de cette nature sont récurrentes dans la région. Le mois dernier, 40 soldats ont perdu la vie dans l'attaque d'une base militaire et en mars, 7 autres ont été assassinés par les mêmes terroristes. Cette situation ravive les craintes de violence dans la zone après une période d'accalmie consécutive à une opération militaire réussie lancée en 2020 par l'armée tchadienne pour détruire les bases des groupes extrémistes.
And for more news out of Cameroon, Burkina Faso's armed forces say they are investigating a gruesome video that purports to show military volunteers hacking apart a dead body with machetes while gloating to the camera. Work is underway to verify the video and the people shown in it so that they can be held accountable for their actions if the facts are proven. And in Mauritius, the Prime Minister has accepted that his coalition, l'Alliance Le Peuple, has suffered a huge defeat following Sunday's parliamentary election. The Prime Minister, Pravit Jugnauth, said the population has decided to choose another team. He was seeking a second five-year term, but his main rival, Navin Ramgoolam, 77, leader of the Alliance of Change coalition, looks set to become the next leader of the Indian Ocean Archipelago. Mauritius is known as one of Africa's most stable democracies, but the election was tainted by a phone-tapping scandal with leaked recordings of public figures posted online. Time for us to talk sports. The Minister of Sports and Physical Education has called for maximum collaboration between the Cameroon Football Federation and all the stakeholders involved in the organization of the upcoming Indomitable Lions Day 5 of, and 6 of the AFCON qualifiers against Namibia and Zimbabwe. Minister Narcisse Muelle-Kambi made the appeal this afternoon at the end of the first preparatory meeting in build-up to the two encounters. Harrison Ashotiko has the details.
The Minister of Sports and Physical Education opened the deliberations with a note of congratulation to Coach Mark Breeze for securing the Lions' qualification for next year's AFCON in Morocco with two matches at hand. However, Professor Narcisse Muelle-Kambi used the opportunity to remind him of the importance of winning the two matches against Namibia on Wednesday and Zimbabwe on the 19th of this month, stating that it will upgrade Cameroon's current FIFA ranking. All the stakeholders involved in the preparation for the encounters, after underlining their plans of action, were asked to bring their A-game for the success of the event, especially for the match against Zimbabwe that will take place at the Ahmadou Ahidjo Stadium, an appeal which the administrator of Onyes, François-Félix Ewane, reassured that the stadium is ready.
Onifor Stadium is ready as usual. We are now just polishing some few items to make sure that the site is perfect to receive the competition.
In his closing remark, the sports boss called for maximum collaboration with the Cameroon Football Federation to ensure that CAF regulations are respected, especially for the comfort of the visiting Zimbabwean team. So far, Carlos Baleba, Brian Buemo and Frank Zambo-Anguissa won't be fit for the match on Wednesday in Johannesburg due to light injuries that they sustained over the weekend with their clubs.
Match Namibie contre Cameroun et Cameroun contre Zimbabwe les 13 et 19 novembre prochains. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a présidé cette mi-journée la première réunion préparatoire à ces deux rencontres des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. L'entraîneur sélectionneur national, Marc Brice, annonce trois absences à ce regroupement. Il s'agit de Carlos Baleba, Brian Bemo pour des problèmes physiques contractés en club ce week-end et de Franck Zambo-Anguissa autorisé à être absent en raison d'urgence privée. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique recommande aux parties d'offrir des conditions de travail aux lions indomptables appelés à rugir de plus belle. Je vous propose d'écouter le professeur Narcisse Muelle-Kambi, extrait d'allocution sélectionnée par Samuel Billon.
Ces deux rencontres n'en sont pas moins importantes. Elles doivent permettre de consolider le leadership, mais également la sérénité au sein et autour du groupe, ainsi que la cohésion dans le jeu développé par notre équipe, qui doit continuer à s'illustrer par une bonne organisation pour de meilleurs résultats conformément aux très hautes orientations et directives du président de la République, son Excellence Paul Biya. Les résultats des deux prochaines rencontres vont également déterminer le maintien du leadership dans la poule J, d'une part, et le relèvement de la position du Cameroun dans le classement FIFA, d'autre part. Toutes les parties prenantes doivent continuer à œuvrer pour la consolidation de l'harmonie au sein et autour de l'équipe nationale du Cameroun afin que le football consolide les nobles valeurs véhiculées par l'olympisme et qu'il redevienne un instrument de promotion de l'image positive du Cameroun, une activité de consolidation de l'unité et du vivre ensemble et non celle qui sème la division et véhicule la haine entre les Camerounais.
Narcisse Muelle-Kambi, ministre des Sports et de l'Éducation physique. Avant de nous séparer, je vous donne lecture de ce communiqué du ministre des Finances relatif à la souscription des déclarations. Communiqué qui porte à la connaissance des contribuables non professionnels soumis à la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques que le délai irrelatif est prorogé au 1er décembre 2024. Le ministre des Finances félicite ceux des nombreux contribuables qui se sont conformés spontanément à cette obligation fiscale à date. Et il précise en outre que le non-respect de cette obligation déclarative ouvre droit à l'application de sanctions prévues par le livre des procédures fiscales. Afin de faciliter les déclarations des contribuables concernés, des équipes de veille ont été mises en place dans leur centre des impôts de rattachement et au centre de la Direction générale des impôts, ainsi qu'un dispositif d'assistance en ligne, notamment en centre d'appel téléphonique, numéro vert gratuit 8200, une plateforme électronique d'assistance Help Desk accessible sur la page d'accueil du site de la Direction générale des impôts, www.support.harmonie2.cm, un numéro de messagerie 691-881-881 pour les contribuables résidents à l'étranger. Le ministre des Finances compte sur le civisme fiscal de tous. Principale information à retenir du 17-18 qui s'achève, le président de la République, Paul Biya, a signé ce lundi 11 novembre 2024 plusieurs décrets, dont celui portant nomination du coordonnateur national adjoint du Comité national de désarmement, démobilisation et de réintégration. Il s'agit de Dozong Alienou, Guy Alain.
And Cameroon's parliament meets tomorrow in its third ordinary session for the 2024 legislative year, with the high point being the examination and adoption of the 2025 finance bill, prioritizing efficient and effective national development policies. And that's the end of the 5 to 6 p.m. presented by Maureen Wanziwile and Larissa Engana, under the supervision of the editor-in-chief, Florence Meke. Thanks for listening, and do stay tuned to programs on the CRTV.